Ah, moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'une fois où j'étais dans le jardin, justement, il y avait deux dames qui passaient là dans le petit chemin. Et puis, il y en a une qui disait à l'autre, tu vois, ici, autrefois, il y avait un monastère et donc c'est le jardin du monastère, etc. Et j'ai trouvé ça trop beau parce que je me dis, ben voilà, ce jardin, il est vraiment intégré dans son environnement. Les gens ont l'impression que c'est un vrai jardin qui existait depuis très longtemps. Et je trouvais ça chouette, quoi. Il remplit son rôle, en fait. En fait, c'est Hans Hoek, c'est le premier, je pense que c'est le premier ou un des premiers, en tout cas, qui a eu l'idée de faire un jardin comme au Moyen-Âge, d'après les documents qu'on avait, donc des documents d'archives, avec le jardin de Saint-Gall, où voilà, il y a plusieurs documents. Et puis, en fonction aussi des œuvres d'art. Et c'est vrai que l'encolie, par exemple, on la retrouve sur les tableaux. Il y en a plein, l'œillet, etc., qui étaient utilisés au Moyen-Âge avec des symboliques différentes. Et donc, il a vraiment fait un travail de recherche énorme, je trouve, pour allier ça, pour allier le côté artistique, voilà, ce qu'on retrouve dans les tableaux, et puis aussi ce qui existait vraiment au Moyen-Âge. Et puis toute la thématique, effectivement, du Hortus Conclusus, etc., Jardin de Marie, il a beaucoup travaillé, enfin, il y a plein de plantes aussi qui sont reliées à la Vierge Marie.
Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée. Une fontaine scellée.
Les sources principales de nos connaissances sur les jardins du Moyen-Âge proviennent entre autres des écrits du dominicain Saint-Albert le Grand, personnage bien connu des Strasbourgeois du XIIIe siècle. Dans son volumineux ouvrage « Vegetabilibus et Naturalia », Albert le Grand préconise la division des jardins en carrés. Dans ce jardin, trois carrés sont consacrés aux fleurs odoriférantes, trois autres aux plantes médicinales, et enfin, trois sont dédiés aux plantes ménagères.
Donc l'air est longue et blanche.
Le lys blanc, aux longues tiges fines et droites et aux fleurs blanches parfaites, peut parfois intimider. Et son parfum, très prononcé et presque entêtant, ne plaît pas à tout le monde. Par sa couleur blanche, le lys a toujours été associé à la pureté et à la virginité. Au Moyen-Âge, il symbolise donc la Vierge Marie et se trouve souvent représenté dans la scène de l'Annonciation. Schongauer, par exemple, a peint un très beau lys blanc entre l'ange et la Vierge sur un des panneaux du retable d'Orlier présenté au musée d'Unterlinden. Au Moyen-Âge, l'observation des plantes est souvent associée à une vertu et le lys servait alors de modèle de perfection. Car la fleur, verte au départ, se confondant avec la tige, s'ouvre tout à coup et offre sa blancheur immaculée. Ainsi en est-il, nous disent les moines, de l'homme, comparable à une plante encore verte, qui, en persévérant dans les voies de la vertu, atteint la blancheur de l'innocence. Et de même que la fleur ne redevient pas verte une fois qu'elle a acquis sa blancheur, de même, devons-nous rester vertueux et ne pas succomber au vice. En tant que jardinière, j'ai un faible pour les œillets de poète, appelés aussi bouquets touffés, car les couleurs de leurs fleurs possèdent des nuances infinies, mais toujours très accordées. Et lorsqu'elles fanent, les graines tombent facilement en terre et se ressèment pour une floraison bisannuelle pleine de surprises et de charme. Ici, dans le jardin, l'œillet des chartreux présente de petites fleurs rouges, alors que les œillets des fleuristes sont plus gros et de couleurs plus variées. Sur de nombreux portraits de couples dans la peinture flamande, l'homme et la femme tiennent un œillet ou posent devant un bouquet d'œillets, car celui-ci est la fleur des fiançailles et du mariage.
De bon amour, veuille me mettre.
La rose trémière, appelée passe-rose, qui veut dire plus belle que la rose ou rose d'outre-mer, elle était très à la mode à la fin du Moyen-Âge. Introduite d'abord au IXe siècle en Espagne par les Arabes, elle arrive en Angleterre au XIIIe siècle, puis en France au XIVe, XVe siècle. Et le nom de rose trémière ou rose de Trémier sera donné plus tard par Jussieu au XVIIIe siècle. Comme la mauve et la guimauve, elle est aussi médicinale, utilisée pour ses vertus émollientes et calmantes.
Je vivrai à Diamante, douce créature, si vous saviez vraiment qu'en vous parfaitement mature.
Cive, ciboule et ciboulette seraient d'origine sibérienne et auraient été domestiquées d'abord en Chine. Comme il n'y a apparemment pas de preuve de l'utilisation de la ciboule chez les Romains, il semblerait que celle-ci soit parvenue en Europe occidentale à l'époque médiévale, via la Russie et l'Europe de l'Est. La ciboulette est plus grêle que la ciboule et a des fleurs roses pourprées, tandis que la ciboule a des fleurs blanches. Elle est aussi plus résistante au froid que la ciboule. La nigelle de Damas est une plante originaire du sud-est de l'Europe et de l'Asie occidentale, usuel depuis Varron, donc à l'époque des Romains. On utilise ces graines comme condiments. Elles sont noires, niger, en latin, et qui a donné le nom en fait de la nigelle, nigella. Elles ont une saveur chaude et piquante. On les utilise toujours actuellement en Orient, en Égypte, en Allemagne, dans le sud de la France aussi, pour saupoudrer les pains et les gâteaux. Caton, un auteur latin, nous donne une recette. Quand un serpent a mordu un taureau ou un autre quadrupède, il faut faire macérer 7 centilitres de fleurs de nigelle dans un quart de litre de vin vieux, lui administrer dans les narines, lui appliquer de la fiente de porc sur la blessure même, traiter une personne de la même manière si le cas se présente. La menthe, selon la mythologie gréco-romaine, c'est la nymphe Minta qui aurait donné son nom à la plante. En fait, Pluton, c'est Hadès chez les Grecs, dieu des enfers, avant de prendre Proserpine, Perséphone chez les Grecs, comme épouse, avait eu de nombreuses conquêtes amoureuses. Et parmi ces conquêtes, eh bien, il y avait Minta, la fille du Cocyte, l'un des fleuves infernaux. Pluton voulait être fidèle à son épouse, mais la nymphe Minta, jalouse, eh bien, s'est acharnée à essayer de le séduire. Elle s'est donc parfumée d'une odeur suave et délicieuse, l'odeur de la menthe. Mais comme Pluton restait froid à ses avances, eh bien, elle a essayé d'animer auprès de Proserpine la jalousie en laissant courir toutes sortes d'histoires et de rumeurs sur Pluton. Finalement, les deux femmes en sont venues à se battre et Proserpine, excédée, a transformé la nymphe en une plante verte, velue, et puis finalement l'a piétinée de colère. Et on dit que partout dans les enfers s'est répandue alors l'odeur gourmande, fraîche et sensuelle de la menthe. C'est peut-être sans doute en raison de cette légende que la menthe a été considérée par les Grecs comme une plante aphrodisiaque. Les jeunes épouses, par exemple, portaient le jour de leur mariage une couronne de menthe et de verveine. Et à Rome, la consommation de la menthe était interdite aux légionnaires, de peur qu'elle ne les détourne de leur activité guerrière. En dépit de ses origines tourmentées, l'anémone passait au Moyen-Âge pour éloigner le mauvais œil et guérir les maux où l'on devinait l'intervention du diable, comme la neurasthénie ou la danse de Saint-Guy. Son nom médiéval, Air de la Trinité, est dû à ses feuilles qui sont en trois parties, qui sont trilobées. Placée en dessous de la fleur pendant l'hiver, la plante suggère le foie et sera utilisée en médecine pour cet organe. C'est ce qu'on appelle la théorie des signatures. Les remèdes portent la signature du mal ou de la partie du corps auquel ils sont destinés. Ceci dans une conception unitaire du monde où toute particularité humaine a son écho parmi les choses de la nature. Celui qui sait s'ouvrir aux signes des choses naturelles a l'intelligence de leur usage. Et de fait, l'anémone est un protecteur hépatique efficace.
Le musée strasbourgeois du Moyen-Âge et de la Renaissance ne pouvait remplir entièrement son rôle sans la présence d'un jardin. Le Moyen-Âge, vivant près de la nature et s'en inspirant à tout moment, a besoin de la présence végétale. Aussi, croyons-nous, en englobant dans l'ensemble du musée un courtil, un paradis, avoir réalisé une pensée qu'Émile Malle, historien de l'art et académicien, en redécouvrant peu à peu les sources et le sens profond de l'art médiéval, a énoncé dans la préface de l'un de ses livres « Il faut que l'œuvre d'art soit associée aux horizons d'une province, à ses bois, à ses eaux, à l'odeur de ses fougères et de ses prés. » Hans Hauck.